avec David Etienne au festival BD Boom de Blois. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes là pour parler des 4 de Baker Street qui est sorti chez Vent d'Ouest. Le deuxième tome est déjà paru. Comment est né le projet? Est-ce que c'est votre idée ou est-ce que c'est celle du scénariste?
Ça vient d'une envie personnelle à la base. J'avais simplement envie d'explorer l'ère victorienne et d'y confronter des gamins perdus dans ce côté glauque de l'East End victorien. C'est une proposition que j'ai faite au scénariste à qui je bossais déjà à l'époque sur une autre série et qui lui a soumis l'idée à son ami qui s'appelle Olivier. Donc mon scénariste à la base s'appelle Jean-Blaise Dian. Il a soumis l'idée à son ami qui est prof de français qui s'appelle Olivier Legrand, qui est fondu de cette période-là, qui connaît très bien et qui lui a eu l'idée précisément d'exploiter cette phase des nouvelles de Sherlock Holmes où on évoque la plupart du temps l'aide de gamins des rues dans ses enquêtes, mais ça n'a pas été développé. Donc Conan Doyle ne l'a pas développé cette phase-là, mais Sherlock Holmes étant libre de droit, on pouvait s'attaquer sans problème à cette tout en s'appuyant sur l'univers de Sherlock Holmes. Donc c'était une idée très, une base de travail très intéressante en tout cas.
Ça demandait quelques recherches ou est-ce que l'univers de Sherlock Holmes c'était quelque chose qui vous passionnait depuis très longtemps?
Alors oui, j'étais pas non plus novice, mais vu qu'on s'attaquait à une époque bien précise dans l'histoire, à la fin du 19e à Londres, moi je voulais être crédible dans mes histoires, pas d'anachronisme ou quoi que ce soit. J'ai fait un boulot de recherche à peu près en amont. Bon, je faisais autre chose en même temps, mais ça a duré une année où j'ai bouffé du film, j'ai fait les librairies pour chercher tout ce qui était iconographie et photos de l'époque. J'ai été même sur place, même si ça a changé Londres, mais au moins pour pas m'approprier les lieux, mais comprendre l'atmosphère de Londres, qui est très particulière avec cette brume, cette ambiance. Et puis voilà, donc ça s'est fait sur un an. Internet aussi m'a beaucoup aidé, cette nouvelle technologie qui permet de trouver vraiment tout ce qu'on veut, tout et n'importe quoi, mais au moins on finit toujours par trouver ce qu'on veut. Un gros boulot de doc qui m'a permis au moins de partir avec un bagage bien solide et sur lequel je pouvais m'appuyer.
Au niveau du travail de construction, vous avez storyboardé?
D'abord, à la base, c'est mes deux scénaristes qui ont bossé, donc forcément, ils ont écrit l'histoire, ils la découpent à deux. Ils fonctionnent en binôme, mais il y en a un gros qui ramène la matière, c'est Olivier Legrand. L'autre, Jean-Blaise Dian, lui qui a beaucoup d'expérience dans le découpage et la technique de la bande dessinée, lui s'occupe justement de découper l'histoire page par page, case par case, et de mettre du rythme. Donc voilà, en gros, ils se complètent très bien, il n'y a pas de problème d'ego ou quoi que ce soit, de confrontation moyenne, des confrontations d'idées qui font germer beaucoup d'autres idées. Et donc à partir de là, moi j'ai cette matière vraiment très précise d'un découpage vraiment case par case, ce qui se passe exactement avec telle action, etc., tel angle de vue, et moi à moi aussi de me réapproprier chaque scène, et j'ai une grande liberté en tout cas qui me laisse où je peux réinterpréter la mise en scène à ma sauce aussi, tout en leur soumettant bien sûr mes idées. Donc il y a un incessant aller-retour entre nous trois en fait.
Vous travaillez comment? Je veux dire, à l'ancienne, techniquement, le dessin scanne et après infographie ou tout?
Maintenant, oui, on a, avec l'infographie, le fait de travailler par Internet, etc., la chaîne graphique, elle est beaucoup moins grande qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez quelqu'un qui scannait les planches, un photograveur, etc. Maintenant, moi, je travaille donc chez moi, je dessine au crayon, je fais mon ancrage au crayon papier, comme dans le dessin animé, je scanne moi-même mes planches à la maison, et après, je fais ma mise en couleur sur Photoshop, donc sur ordinateur. Donc du coup, je fais pratiquement toutes les étapes de fabrication de la planche à la maison.
C'est marrant que vous disiez comme pour le dessin animé sur le dessin, parce que c'est vrai que de par les ombres, on s'attend presque à ce que ce soit des extraits d'un film. Il y a un tel mouvement, une façon justement d'avoir des codes couleurs à certains passages. C'est une volonté du scénariste, enfin des deux scénaristes, ou est-ce que c'est vous, votre façon de travailler qui fait que vous tendez à ça?
C'est ma façon de travailler qui fait que j'ai des influences, et aussi j'ai passé 3 ans à faire des études à l'école des Gobelins de Paris, une école d'animation. Forcément, donc du coup, j'ai eu des influences autour de moi, que ce soit par mes intervenants, par mes collègues de travail. Et du coup, j'ai cette influence dessin animé qui fait que déjà rien dans le rendu, dans le dynamisme, etc. Et aussi dans la mise en couleur, j'attache beaucoup d'importance à cette mise en couleur, qui pour moi a un rôle très important aussi dans la mise en scène, les ombres, la façon dont elles sont placées, l'ambiance qu'elle va rendre. Donc oui, forcément, il y a un côté dessin animé tout en ayant aussi une culture franco-belge assez solide de BD, donc j'essaie de mélanger tout ça et d'en sortir quelque chose d'assez original, même si c'est jamais au final très original, mais voilà. En gros, toutes mes influences se retrouvent là-dedans. Donc il y a une grosse part de dessin animé, mais aussi une grosse part de BD traditionnel franco-belge.
Pour revenir sur les couleurs, vous avez par séquence, si on peut dire, une thématique. Je pense principalement à la fin du deuxième tome, quand vous êtes autour de la Tamise, c'est tout bleu. Et on retrouve ça tout au long de la BD. Ça se fait naturellement, c'est pour insister sur les séquences.
Oui. Oui, c'est ça. Avant d'attaquer un album, il faut avoir une idée générale de la couleur de l'album. Ce que j'appelle la couleur de l'album, c'est l'ambiance qui va se dégager de l'ensemble de l'album. Donc, par exemple, le premier tome s'est passé en été, avec des couleurs vives, des lumières assez crues, du soleil. Le deuxième tome se passe en automne, le troisième se passera en hiver. Donc, à chaque fois, on a une ambiance déjà particulière qui se dégage. Et après, le challenge aussi, c'est de différencier chaque scène pour que c'est une notion de rythme aussi pour, enfin, pour que le lecteur ne s'ennuie pas, il faut qu'il puisse passer d'une ambiance à une autre, que pour lui ça soit clairement le jour, la nuit, une ambiance très lumineuse ou une ambiance voilà, beaucoup plus obscure. Il faut que chaque scène ait sa couleur aussi. C'est une volonté et c'est une technique aussi particulière. Oui.
Au niveau architecture, vous vous faites plaisir ou est-ce que c'est dur de respecter justement tous ces bâtiments? Parce que vous avez sur le premier volume aussi beaucoup de perspectives, beaucoup de toits.
C'est une volonté, c'est dur, oui, de toute façon, la perspective c'est une technique bien, mais il faut pas non plus que ça soit trop, comment dire, je m'attache à reproduire beaucoup ce que j'ai comme en documentation, être le plus possible crédible par rapport à cette époque-là, surtout qu'à cette époque-là, on a une capitale, Londres, qui évolue très rapidement, fin du 19e, que ce soit au niveau de la mode vestimentaire, au niveau des moyens de locomotion, au niveau, même la ville en elle-même bouge énormément, les quartiers pauvres sont constamment en mouvement, enfin voilà. Donc c'est une ville qui bouge, et donc en l'espace de 10 ans, on peut avoir une ville qui a complètement changé d'atmosphère, et en tout cas visuellement, qui chante. J'essaie de m'appuyer énormément sur cette doc pour être le plus proche en tout cas de ce qui... C'est aussi un challenge personnel, c'est histoire d'être crédible dans ce que je fais. Et du coup, oui, j'essaie de rendre le maximum de réalisme dans mes bâtiments. C'est compliqué, il faut aussi que j'arrive à, petit à petit avec de la bouteille à aérer peut-être mes planches qui parfois foisonnent vraiment trop de détails. C'est aussi mon problème. Mais c'est un plaisir aussi, ouais, justement, de pouvoir me dire, bah voilà, ça, là, j'ai reproduit exactement comment se représentait cette place-là qui était importante à l'époque avec cette... tel moyen de locomotion, les vieux bus de l'époque. Les... Et au final, quand j'arrive à rendre vraiment la même atmosphère, voilà, c'est un plaisir, oui. C'est dur comme tout, parce que là, ça reste une technique, mais plaisir d'être de façon là. Sinon, s'il n'y a pas grand intérêt, c'est clair, à faire ce travail-là.
Donc le seul personnage sur lequel vous pouvez vous faire plaisir, enfin la seule partie, c'est le chat, Watson.
Non, pas spécialement. Non, je me fais plaisir avec vraiment tous les personnages. De toute façon, généralement, les dessinateurs diront toujours la même chose. Enfin, si on se fait pas plaisir sur une bande dessinée, sur les personnages, les personnages, ça se ressent de façon à la lecture, si on les aime ou pas. Moi, je sais que j'ai une affection pour chaque personnage, pour chaque particularité qu'il a. Et j'essaie de le montrer. Et je pense que le lecteur, il le ressent. Si le dessinateur s'est ennuyé en dessinant ses personnages, il a pas mis tout. Moi, je sais que je m'éclate. Hein. J'entame une planche, j'entame des dialogues entre mes personnages, différentes attitudes, etc. Là, je m'éclate, j'explore à chaque fois un nouveau. C'est tout l'intérêt. Et si ça n'avait pas lieu d'être, ça se verrait automatiquement, le boulot serait de moins bonne qualité.
Le personnage que vous trouvez le plus sympathique ou que vous appréciez le plus dans le dessin, celui qui vous donne le plus de plaisir, est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'ils sont tous aussi drôles à dessiner?
Ouais, ils ont chacun leur particularité. Après, moi, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être le personnage de Black Tom, l'Irlandais, le bourru du groupe, celui qui a le caractère un peu trempé, que j'aime bien, parce qu'il a ce côté vachement dynamique. Il est fonceur, c'est lui qui va faire les acrobaties. Et c'est vrai que dans mon dessin, comme j'ai un dessin assez dynamique, très dessin animé, c'est là où je me fais le plus plaisir à tenter des poses, un peu à la Spider-Man. D'ailleurs, dans le premier tome, j'avais fait un petit clin d'œil justement à ce genre de pose. Et oui, celui-là, il a un côté plus éclatant dans les, on peut plus se lâcher, ouais. Donc je dirais celui-là qui est plus, mais sinon les autres, enfin j'ai toujours un intérêt à les dessiner, qu'ils ont chacun leur particularité physique aussi, voilà, agréable.
Pour terminer nos interviews, on a une question qui est celle-ci: si on veut donner le choix entre la vie éternelle et le don d'ubiquité, vous prenez quoi?
Le don d'ubiquité, parce que la vie éternelle, au bout d'un moment, l'ennui, être un Highlander, c'est pas. Non, ouais, j'ai la deuxième option, voilà.
Pour finir, il y a une bande-annonce sur le deuxième tome. C'est vous qui l'avez réalisé aussi ou pas?
Non, ça c'est Vandouès, il y a une personne qui s'occupe de ça. J'étais même pas au courant justement. J'ai découvert ça en même temps que tout le monde et j'étais agréablement surpris parce qu'elle est bien rythmée. Je m'étais proposé un moment de la faire et puis j'avais pas le temps de m'occuper de ça. Et puis finalement, ouais, la personne qui a fait ça était très compétente et j'étais assez agréablement surpris. Ouais.